Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des réalités de la vie chrétienne qui laissent parfois sans voix, alors que pour dire la vérité, nombre de chrétiens, même pratiquants, ne croient pas toujours que le Christ est une personne vivante avec qui l'on peut avoir une relation. Le pape François propose en cette période si troublée un guide surnaturel, Saint Joseph, une grande ambition que celle du pape, qui est de nous faire entrer dans ce que l'on appelle la communion des saints. Alors pourquoi et comment ce père adoptif de Jésus il y a maintenant plus de 2000 ans peut-il être pour nous une aide concrète dans nos vies? Une question à laquelle les diocèses du Sud-Ouest ont commencé de répondre et prendre cette question à bras-le-corps. Les diocèses du Sud-Ouest à l'heure de l'année Saint-Joseph, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, Michel Pagès, vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse et curé de la paroisse Saint-Joseph. Bonjour.
Bonjour.
Pascal Garçon, vous êtes prêtre de la congrégation de Sainte-Croix, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garizon. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra pendant l'émission Sylvie Faye pour les éditions de l'Emmanuel et Loïc Mérian pour les éditions Artege. On va commencer donc avec vous deux, ou peut-être plutôt avec vous en ce début d'émission, Michel Pagès. À propos, donc, vous êtes donc le curé de cette paroisse, unique lieu dédié à Saint-Joseph, on va en parler dans le diocèse de Toulouse. Mais peut-être une première question, elle est pour vous deux. Difficile tâche que de faire entrer dans la communion des saints, je le disais avec un petit sourire dans la voix et un brin provocateur. C'est vrai que déjà, parfois, quand on est pratiquant, croire que le Christ est réellement ressuscité, c'est toute une aventure. Mais alors, la communion des saints, est-ce que le pape François ne met pas la barre un peu haut, Michel Pagès?
Il y a un terme qui me frappe beaucoup dans la figure de Saint Joseph et dans sa personne, c'est le fait qu'on lui fait confiance. Il est choisi, on lui confie, il devient le gardien, un gardien concret. Et cela trouve écho en moi dans l'évangile par le terme d'intendant. Combien de paraboles disent que nous sommes faits intendants de la vigne du Seigneur, du domaine. Et cette parabole, ces paraboles nous disent notre importance. La confiance que Dieu met en l'homme, en chacun de nous. Et je pense que la pertinence, une des pertinences de Saint Joseph, c'est peut-être celle-là. À mes yeux en tout cas, au moins une d'elles, c'est Dieu nous fait confiance. Dieu fait confiance en l'homme, Dieu se confie à l'homme, la création notamment. Et voilà, il nous donne cette mission de gérer la terre et de gérer l'humanité.
On y reviendra parce que c'est ce qui vous a donné quelques idées. Pascal Garçon, vous me direz, dans un lieu d'apparition mariale, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, votre charge est de faire rentrer dans les réalités du ciel aussi. Mais si on s'en tient juste à cette première réflexion que je fais, est-ce là une tâche en fait bien ardue que de faire rentrer dans la communion des saints? Chez vous, vous avez un établissement scolaire juste à côté, on vous a déjà interviewé à plusieurs reprises, et vous, de fait, les jeunes ont un peu de mal à rentrer dans ce type de réalité.
Sans doute, mais je crois que pour continuer un petit peu ce que disait le Père sur la confiance, je crois que ce soit la communion des saints, que ce soit avec Saint Joseph, que ce soit avec la Vierge Marie, c'est pas d'abord, ou que ce soit la résurrection de Christ, comme vous le mentionnez au tout début, ce n'est pas d'abord une connaissance théorique, intellectuelle, c'est une expérience de vie. Et quand on rencontre, par exemple, sur Saint Joseph, c'est très clair, on peut avoir, l'Évangile ne dit pas beaucoup, même si elle nous dit beaucoup déjà de Saint Joseph, mais pas tant que ça. Mais en même temps, quand on rencontre des chrétiens, des chrétiennes qui nous parlent de Saint Joseph, ils nous parlent d'expérience. Telle famille va nous parler avec beaucoup de détails de l'action de Saint Joseph pour trouver telle maison ou tel travail, telle communauté religieuse va témoigner d'expérience de l'action de Saint Joseph. Et nous, dans la congrégation, à Montréal, au Canada, nous avons ce qu'on appelle la basilique l'oratoire de Saint-Joseph, où un humble petit frère a fait d'abord l'expérience de la puissance de la prière de Saint-Joseph, avant même que l'Église commence à en parler, à intellectualiser cela. Et je crois que ce soit dans des lieux d'apparition, comme Garizon ou d'autres, il y a toujours d'abord une expérience très forte, et ensuite on va pouvoir essayer de répondre, de comprendre cette expérience avec nos critères de raison et de pensée. Mais c'est d'abord une expérience. Avec Saint-Joseph, je crois, et je pense que les auditeurs pourront en témoigner, c'est d'abord une expérience de communion de proximité.
Eh ben, on va essayer de voir les petits cailloux, et puis entre autres les éditions de l'Emmanuel et les éditions Arthège nous aideront à rentrer dedans. Vous verrez, il y a des livres de témoignages, entre autres, auxquels ils vont nous inviter, enfin, qu'ils vont nous inviter à lire sur les merveilles de Saint-Joseph. Commençons donc par vous, Michel Pagès, et par la paroisse Saint-Joseph. Donc il y a un lieu, c'est votre paroisse, vous en êtes donc le curé, qui est presque dans le centre-ville de Toulouse, qui est donc, qui va peut-être devenir un sanctuaire à l'occasion de cette année Saint-Joseph. Si vous deviez nous le présenter, il a été voulu comme tel, donc par un évêque de Toulouse, Monseigneur Florent Després.
Alors au sens strict, ce n'est pas un sanctuaire. Au sens strict, c'est une paroisse canonique. Et elle a été voulue en 1861 par le cardinal Després, qui était archevêque de Toulouse. Et il a donné une devise qui est intéressante à propos de cette église et du patronage de Saint-Joseph. Elle montre la voie du Christ vers l'Est. Et l'Est étant le lieu du soleil levant et de la résurrection pour nous. Et donnant la figure de Saint-Joseph comme étant celui qui désigne, qui montre encore et toujours, qui se décentre et qui prépare, accompagne, éduque. Et cela lui a été confié. Le Père parlait aussi de ce côté très concret que je confirme dans la pratique de la paroisse. Voilà, donc
Alors si vous deviez rester juste sur la description donc de ce lieu, donc ça a été construit donc en 1861, donc avec donc cette mention, il faut dire donc que la paroisse est de fait physiquement aussi à l'est de Toulouse. Si vous deviez nous la décrire, votre belle paroisse, et puis peut-être c'est un lieu aujourd'hui de dévotion déjà.
Alors je saluerai mes prédécesseurs parce qu'il y a quand même une longue tradition de curés qui ont toujours mis en avant alors des pratiques qui un temps n'étaient pas tellement mises en avant, qui ont retrouvé un sens et une lumière. Mais par exemple, ce qui se fait déjà depuis plusieurs générations de curés, de faire circuler une statue de Saint-Joseph de famille en famille. C'est un quartier, une paroisse importante en nombre d'abord, mais avec beaucoup de familles. Et je constate que cette tradition perdure, qu'elle est juste. C'est-à-dire qu'il y a un livret d'intention, de prière, avec cette statue qui va de famille en famille, de dimanche en dimanche. Et on voit bien là que ce relais est large, que la pratique elle est évidente, elle est acquise. Et j'insiste, elle est déjà de plusieurs générations de curés.
Il y a aussi donc une statue où on peut aller déposer des intentions de prière. Vous dites qu'il y a du passage là-bas, hein, et peut-être qu'il y en aura plus encore demain.
Alors il y a un tronc qui est là aussi depuis plusieurs générations et qui rassemble des intentions. On est en train de constituer un relevé au sens le plus respectueux de ces intentions, mais où on essaie de voir comment les gens voient et se confient à Saint-Joseph. Oui, de fait, il y a aussi ce lieu.
Voilà, un lieu à découvrir. Ceux qui iront donc pourront découvrir les vitraux du cœur ou la vocation de Saint-Joseph ou entendre le beau carillon de cette église. Alors, en cette année Saint-Joseph, vous avez eu une initiative. Cette initiative, on va dire, le coup de feu, ça va être donc le 20 mars prochain, en présence de Monseigneur Robert Legal, archevêque de Toulouse, provincial donc de la province ecclésiastique donc de Toulouse, qui viendra donc pour bénir des milliers de médailles. Racontez-nous un peu cette idée que vous avez eue en paroisse.
Alors nous célébrerons bien sûr le 19 mars solennellement la fête de Saint-Joseph, mais Monseigneur Legal viendra en raison d'un samedi qui est quand même beaucoup plus commode. Il viendra présider la messe à 11h le 20 mars. Et à cette occasion, on a décidé de faire frapper des médailles qui ont sur un côté le Saint-Joseph gardien et sur l'autre la Sainte Famille. Déjà, nous avons reçu plusieurs milliers de ces médailles. L'idée étant que l'archevêque les bénisse. Mais on veut dire par là, et on est parti de là, que la tradition chrétienne, catholique, de porter la médaille, de bénir la médaille au baptême, était, j'allais dire, une illustration du fait qu'on mettait un enfant, une personne sous une protection. C'est une autre façon de le dire. Et cette tradition est belle, elle est grande. On se met sous cette protection et on le porte comme un talisman, mais comme une présence et une protection. Voilà, donc c'est un peu le sens et cela ne sera pas réservé aux paroissiens. Ce n'est pas occasion d'une vente, mais bien d'une disponibilité.
Donc d'un côté, il y aura Saint-Joseph gardien et de l'autre, Sainte Famille, c'est ça ?
Voilà.
si vous deviez nous la décrire un tout petit peu et puis nous dire pourquoi donc il faut la porter, ou quel est peut-être le sens, si vous deviez reprendre un peu cette notion de gardiennage. Gardiennage, le mot est mal choisi, peut-être l'intendance est plus ajustée.
Oui. Ben nous sommes sous le regard de Dieu, et par le baptême nous revêtons le Christ. Quelque part nous sommes sous sa protection et appelés à sa vie. Et on peut revenir à cette réalité de la résurrection. Un baptisé a revêt le Christ. Voilà, Saint Joseph est rentré dans le projet de Dieu sur le Christ. Et voilà, donc cette tradition de Joseph qui porte l'enfant, c'est un des revers de la médaille. Joseph gardien. Et de l'autre côté, et c'est aussi la volonté du Saint-Père François, qui dit qu'il veut qu'aussi on honore et qu'on célèbre le 19 mars, en même temps que Saint-Joseph, la Sainte Famille, c'est un de ses désirs. D'où le fait d'avoir sur l'autre revers, voilà, la Sainte Famille qui protège ceux qui se mettent sous le regard de Dieu.
On pourra donc aller toquer à la porte de la paroisse au long de l'année pour demander cette médaille. Peut-être qu'on y reviendra à la fin de l'émission. Le pape François donc a publié une lettre donc le 8 décembre dernier, quand il a annoncé et inauguré donc cette année Saint-Joseph, qui courra donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc jusqu'au 8 décembre 2021. Cette lettre, ça s'appelle donc en français « Avec un cœur de père », lettre apostolique. On en a parlé à cette antenne, on a fait deux émissions, même début janvier. Dans sa lecture, si vous deviez comme ça tirer un ou deux fils qui vous ont frappé, Michel Pagès.
C'est la fin de cette lettre qui s'intitule « Le Père dans l'ombre ». J'ai été très touché quand le pape a eu l'initiative de cette lettre. Il explique que il a observé la réalité du Covid et des enfermements, avec tous les termes qu'on connaît, couvre-feu et autres termes, et qu'il a été interpellé parce qu'il avait écho et qu'il s'en souciait de tous les personnels de santé qui étaient dans l'ombre, c'est son expression, qui étaient cachés mais qui œuvraient dans l'ombre, qu'on ne voyait pas, et qui œuvraient au nom du Christ. Et j'étais sensible à ce terme « père dans l'ombre » parce que, de fait, il dit ben, « en pensant à ces gens, je voudrais donner un modèle en la personne de Saint Joseph qui restait dans l'ombre ». Mais en même temps, il a été choisi objet d'attention et de parole, de révélation pour exercer cette œuvre-là.
Pourquoi ça vous a particulièrement frappé, en dehors du fait que vous êtes par ailleurs aumônier donc d'un mouvement qui s'occupe des personnes malades, en l'occurrence Lourdes Cancer Espérance, mais parce que c'est aussi ce que vous voyez en fait chez vous, parmi vos paroissiens, il y a beaucoup de personnes de l'ombre comme ça qui ont besoin d'être mis en lumière. C'est ça qu'il faut entendre derrière ou pas ?
Merci de vous souvenir de ma mission nationale de Lourdes Cancer Espérance, c'est gentil, mais et c'est vrai, et peut-être ça a trouvé un écho en moi. J'ai d'ailleurs écrit un petit mot au pape François qui m'a répondu par un ami italien de la paroisse, mais en confiant justement les fragilisés du cancer. Et le pape manuscrit m'a envoyé un petit mot très gentil par la personne, par ce couple italien. Mais bien sûr, sensibilisé aux fragilités humaines. Mais le Covid a révélé quelque chose qui est à l'initiative de cette lettre du pape François qui dit mais des tas de gens sont touchés par cette réalité et on en connaît aujourd'hui les dégâts et les conséquences multiples et il a voulu voir ce qu'on ne voyait pas et qui était là au nom de leur foi dans l'ombre, et il pensait beaucoup au personnel de santé. J'ai été longtemps, 8 ans, dans les aumôneries et responsables diocésains, et sur le CHU, important lieu, qui m'a beaucoup marqué. Et je suis très sensible à cette dimension des personnels dont on ne voit pas, ils sont jamais devant. Voilà, je pense que c'est un ensemble de choses auxquelles le pape a été particulièrement attentif.
Ma question, c'était aussi, est-ce que parmi vos paroissiens, il y a aussi beaucoup comme ça de personnes de l'ombre quelque part et qui ont besoin d'être particulièrement accompagnées? J'imagine que les classes moyennes de la sainteté dont parle le pape François, c'est aussi un peu votre quotidien quelque part.
Oui, mais alors pour le coup, on rejoint les intentions qui étaient évoquées tout à l'heure par le père aussi et que je vois dans ce tronc des intentions. C'est-à-dire que c'est des intentions très concrètes. Et je pense que quelque chose de particulier de Saint-Joseph, c'est pas une sainteté éthérée, vous voyez, c'est pas la sainteté du livre. pardon, et je n'ai rien contre, mais c'est une sainteté de la vie réelle, de la vie concrète, de la vie blessée, de la vie cachée. Et quand même, beaucoup de quotidiens de nos paroisses, de notre humanité, sont particulièrement réduits, touchés par et interpellés dans leur quotidien. Et je pense qu'on touche du doigt, je touche du doigt, par les intentions que je lis et que je présente à la messe, cette réalité très concrète, d'une sainteté concrète.
Allez, on va faire une première pause et puis on va retrouver comme une page de pub d'une certaine manière les éditions de Lemonel, les éditions Arthège. Je le dis juste pour secret de fabrique, on voulait avoir une paroisse, un diocèse, un sanctuaire. On devait avoir Monseigneur Laurent Camillat pour le diocèse de Cahors. L'idée, c'est pas de se flageller, mais c'est d'inciter aussi les auditeurs à découvrir dans le diocèse de Cahors un magnifique lieu qui s'appelle le Mont Saint-Joseph, qui est donc un lieu de pèlerinage, un sanctuaire celui-là, qui est aussi à découvrir. De multiples lieux consacrés à Saint-Joseph à découvrir dans notre belle région. On fait une première pause et on vous retrouve dans quelques instants.
Emmanuel Pella.
Les diocèses du Sud-Ouest à l'heure de l'année Saint-Joseph, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi où l'on donne traditionnellement un coup de zoom et de chapeau donc à toutes les réalités de la vie chrétienne de notre région. Autour du plateau, Michel Pagès, prêtre du diocèse de Toulouse, curé de la paroisse Saint-Joseph, Sylvie Faye pour les éditions de l'Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Loïc Mérian pour les éditions Arthège, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Voilà, on vous dit bonjour.
Très loin.
Ça va s'arranger, rassurez-vous. Et Pascal Garçon, donc, qui est prêtre de la congrégation de Sainte-Croix et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Alors, merci d'avoir répondu un peu au pied levé pour, on va dire, cette page de pub au milieu de l'émission. Mais c'est bienvenu. Vous allez nous donner quelques pistes de lecture, donc tirées de vos rayonnages. Et on va faire un petit mélange de l'un et de l'autre. Peut-être deux livres pour commencer, des éditions de l'Emmanuel et après des éditions Arthège, pour découvrir d'abord Saint-Joseph. On va commencer avec vous, Sylvie Faye, pour une BD, Une vie de Saint-Joseph. C'est de Christophe Adevis et Roderick Valenbois. Présentez-nous cet ouvrage.
Oui, alors ça s'appelle donc Le Veilleur, effectivement, Une vie de Saint-Joseph. Alors c'est une BD assez originale, car c'est une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont un père et un grand-père qui racontent l'histoire de Saint-Joseph à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc ce sont des allers-retours entre le passé, donc la vie de Saint-Joseph, et le présent, la vie d'une famille actuelle qui va faire cette expérience de prier Saint-Joseph et de voir l'intercession de Saint-Joseph dans sa vie. Donc le récit biblique est vraiment fondé sur l'évangile, sachant que c'est quand même un tour de force parce que on ne sait pas grand-chose sur Saint-Joseph. Hein. C'est quelqu'un qui ne parle pas dans l'évangile, qui est très discret. Et donc l'auteur, Christophe Adevis, a donc imaginé cette vie cachée à Nazareth, avec cette belle complicité entre Joseph et son fils Jésus, comment il lui apprend le métier de charpentier, etc. Donc vraiment une immersion dans la vie de la Sainte Famille cachée à Nazareth, et puis une interaction avec la vie aujourd'hui de cette famille qui va vivre des petites aventures dans cette BD, et on va terminer avec des récits de témoignage de l'intercession de Saint-Joseph dans l'histoire de l'humanité.
Voilà. Alors, on peut dire que Christophe Adevis donc, est prêtre de la communauté de l'Emmanuel et qu'il a reçu donc, le prix BD chrétienne d'Angoulême, c'était en 2014. Donc, un ouvrage pour commencer de découvrir Saint-Joseph. Si on va du côté des éditions Arthège, vous en avez un aussi pour nous aider à faire connaissance avec Saint-Joseph, on va dire d'un tout autre peut-être acabit, Loïc Merian. Donc, c'est Tout savoir sur Saint-Joseph de Dominique Letourneau, qu'on avait déjà eu à cette antenne pour un guide qu'il avait publié, Guide des sanctuaires Mario, paru donc chez vous aussi. Présentez-nous cet ouvrage.
Oui, ben monsieur Dominique Letourneau est l'auteur, oui, d'habitude d'ouvrages assez monumentaux, hein, son dictionnaire de Marie, son guide des sanctuaires Mario. Mais là, il nous propose sous une forme plus accessible un guide en fait qui n'est pas une encyclopédie, qui est un vrai guide. Il nous accompagne un petit peu sur la découverte de Saint-Joseph, d'abord à travers les mentions rares que l'on peut avoir de lui dans le Nouveau Testament, mais tous les épisodes auxquels il a participé, mais également les préfigurations de Joseph dans l'Ancien Testament et le sens spirituel que l'on peut attacher à ces préfigurations. Et puis, j'avoue que moi-même, j'ai découvert un petit peu cette très riche présence de Saint-Joseph dans les évangiles apocryphes, ces évangiles de l'enfance portés par la tradition, certes ne sont pas reconnus comme des livres officiels, mais nous donnent vraiment le goût de cette tradition orale si importante dans les milieux juifs, et qui nous donne une si belle image de Saint-Joseph. Et puis l'idée de Mgr Letourneau, c'est de nous guider aussi à travers les vertus de Saint-Joseph. Ça donne un petit peu le vertige, mais en fait, à chaque fois, quand il les énumère et qu'il les décrit, les met en valeur, on se dit, mais oui, ça correspond tellement bien à Saint-Joseph. Donc, sa foi, son obéissance, sa charité, sa force d'âme, son humilité, sa pureté, sa fidélité, sa prudence, sa patience, sa pauvreté, sa simplicité, sa science, on dirait presque qu'il concentre toutes les vertus chrétiennes en lui. Ce personnage si discret, dont on n'a pas une seule parole, ce grand silencieux de l'Évangile, mais dont la place finalement est si importante dans notre vie chrétienne.
Ça, c'est Tout savoir donc sur Saint-Joseph, voilà, pour découvrir cette figure qui est bien à l'image du christianisme, tout en parfois en paradoxe, discrétion et en même temps grandeur. Alors maintenant, si on essaye de voir un petit peu ce que les fidèles en disent d'une certaine manière, vous avez deux ouvrages à nous proposer. On commence avec vous, donc Sylvie Faye, Michel Pagès et donc Pascal Garçon laisser entendre qu'on ne peut dans le fond découvrir Saint-Joseph qu'en se lançant et en découvrant à quel point il peut être concret. Et c'est, semble-t-il, le fil rouge d'un ouvrage que vous voulez nous présenter qui s'appelle « Merveille de Saint-Joseph » de Jacqueline Dezoif. Je ne sais pas comment vous prononcez exactement le nom. Racontez-nous quel est le propos de cet ouvrage.
Oui, Jacqueline Dezoif qui est belge. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans la dévotion à Saint-Joseph et connaître Saint-Joseph, ce livre est un vrai régal, je vous assure. Ce sont des fioretti, des petites histoires qui sont arrivées donc à cette personne qui est donc une laïque, une mère de famille. Et donc elle témoigne de l'action de Saint-Joseph dans sa vie. Et vous allez voir, l'action de Saint-Joseph est vraiment puissante. Donc...
On peut dire que cette femme donc a été intendante de la maison Saint-Joseph à Namur, qui est un lieu d'accueil pour jeunes, en année de propédeutique, donc c'est une espèce d'année un peu de discernement avant de rentrer au séminaire. Alors il y a de multiples exemples, c'est ça en fait, c'est quoi? C'est une succession de témoignages?
Exactement, ce sont des petites histoires, des fioretti de l'action de Saint-Joseph dans sa vie, et effectivement dans le cadre de cette maison de Saint-Joseph qui a été créée donc à Namur, elle raconte comment la prière à Saint-Joseph peut être extrêmement puissante. Alors je vous cite quelques exemples. Elle avait vraiment juste avant la création de cette maison d'accueil, elle avait vraiment dans le cœur d'être présente dans une maison d'accueil avec des poules, des canards, un petit jardin et des lapins. Enfin voilà, très très, très concret. Et lorsque une maison a été disponible, donc des sœurs ont donné cette maison, elle a demandé à visiter, la première chose qu'elle a demandé à faire, c'est visiter le jardin. Elle a vu qu'il y avait des poules, qu'il y avait des canards. Elle a dit, est-ce que vous avez des lapins? Et effectivement, il y avait des clapiers. Donc ça, c'est un petit clin d'œil de voir à quel point Joseph répond à nos demandes de manière extrêmement précise. Elle parle aussi d'un moment où la maison avait besoin pour faire les travaux de 100 000 francs, alors 100 000 francs belges à l'époque. Et voilà, est-ce qu'on allait faire ces travaux ou pas? C'était vraiment en suspens, prière à Saint-Joseph et intercession. Et là, un de ses frères de communauté descend, il lui dit « Ah, j'ai oublié de te donner un chèque pour les travaux, un monsieur nous a fait un chèque, 200 000 francs ». Voilà, donc ça, ce sont des exemples très concrets. Et dans ce livre, vraiment, elle nous partage à quel point, en fait, c'est une question de confiance, de faire confiance à Saint-Joseph, que Joseph peut vraiment pourvoir à nos besoins, enfin que Dieu peut pourvoir à nos besoins à travers l'intercession de Saint-Joseph, et que c'est une question de confiance et d'abandon.
En tout cas, dans le teasing qu'on peut trouver sur Internet que vous faisiez de l'ouvrage, vous disiez que vous-même, vous étiez un peu tombé de votre chaise, non? C'est ça, en lisant ce livre?
Alors moi, je me suis passionnée pour ce livre. Je vous assure que parfois, j'en ai pleuré tellement je trouve que cette confiance qu'elle a eue en Saint-Joseph montre que vraiment, on peut lui demander des choses parfois très, très matérielles, très concrètes. Mais après, il va donner juste ce qu'il nous faut. Il va peut-être pas donner... Enfin, ça va être une réponse adaptée à chacun. Et en tout cas, moi, je recommande vivement ce livre qui nous fait entrer. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Joseph et son intercession, c'est vraiment une belle manière et de manière très, très, très incarnée d'entrer dans cette prière à Saint-Joseph.
Alors Loïc Mérion, avant que vous nous présentiez peut-être un dernier ouvrage, Michel Pagès, j'avais peut-être une question ou une mise en perspective, c'est que ça peut être déroutant d'entendre que d'abord Saint-Joseph serait prié pour des choses très concrètes et qu'il répondrait, on va dire, à la prière sous cette forme. C'est parfois aussi ce qu'on entend d'un autre saint, Saint Antoine de Padoue, pour ceux qui sont, on va dire, plus familiers des prières d'intercession. Parmi les méditations que vous proposez à l'occasion de l'année Saint-Joseph sur le site de votre paroisse, vous dites la chose suivante: Dieu intervient toujours quand il trouve la foi et la confiance, et il ouvre un chemin différent, mais toujours une voie qui respecte l'amour et le bonheur profond des êtres. Saint-Joseph, c'est comment dire, il veut notre bonheur jusqu'à répondre à des petites choses comme ça, on va dire apparemment insignifiantes, non?
Il ouvre des voies. Je crois que ça fait écho à cet ouvrage très concret de témoignage. Il ouvre des voies en nos vies. C'est pas une loterie, Saint-Joseph. Et les dons ne sont pas des gagnants. Il ouvre une voie dans nos vies et ça va jusqu'au très concret. Un saint de la vie ordinaire, un saint d'une sainteté tangible qui va jusque dans la logique, moi je dirais, de l'incarnation. Je suis frappé, il y a dans mon église des vitraux du cœur qui évoquent cinq moments qui croient ce qui vient d'être dit sur les évangiles apocryphes et sur les évangiles canoniques. Mais on voit à la fois que c'est ce côté très concret que vous évoquez et où vous m'interpellez, touche la naissance de cet enfant et la venue des mages. Joseph se dit, mais ça, Marie ne m'appartient plus quelque part. Et ça touche à cet amour. Alors la tradition, après, évoque son mariage. Pas les textes canoniques. Mais voyez, on voit bien que ça touche à la fois le projet de Dieu, les chemins mystérieux de Dieu et sa vie concrète. Et puis, les évangiles évoquent la fuite en Égypte. Enfin, il entend cette parole divine qui lui fuit en Égypte, prend soin, protège cet enfant. C'est extraordinaire dans le plan du salut. Et en même temps, la tradition évoque sa mort, où Jésus serait présent et Marie aussi. Vous voyez que ça croise à la fois Bien sûr, ce dont l'Église a authentifié la réalité.
Ça croise à la fois l'histoire du salut et l'histoire très concrète.
Voilà,
c'est ça qu'il
faut entendre. L'histoire du salut et l'histoire concrète. Et je pense que ça répond à votre question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites choses qui ne servent à rien. Il y a notre capacité, on rejoint le terme de la confiance, notre capacité à dire, que veut me dire là le projet de Dieu ?
Loïc Mérian, pour finir, un autre ouvrage très spirituel, celui-là, mais qui est une autre manière donc de rentrer donc dans la dévotion ou la relation à Saint Joseph. C'est donc un ouvrage de Dominique Joseph, Pensée spirituelle sur Saint Joseph. On a fait avec lui deux émissions en ce début d'année. Dieu sait s'il est calé. Je peux rappeler, on va dire, ses qualités. Alors, je ne sais pas si le fait d'être moine de la famille de Saint Joseph en est une, mais en tout cas, il est bibliste, docteur en théologie et donc président du réseau Saint Joseph international. C'est tous les josephologues même qui puisse exister. Présentez-nous cet ouvrage et pourquoi est-ce que vous le proposez à vos lecteurs ?
Oui, c'est un ouvrage de petites pensées sur Saint Joseph. Donc là encore des choses très concrètes, comme on vient de l'entendre. Voilà, Saint Joseph dans nos vies, ce n'est pas juste des hautes pensées très spirituelles ou intellectuelles, mais c'est aussi vraiment le concret de notre vie chrétienne. Le plus simple pour vous introduire dans ce petit livre qui peut nous accompagner durant cette année Saint Joseph, c'est de vous citer deux extraits de ces pensées rédigées par le Père Dominique, qui est un bon prédicateur, qui a l'habitude de ces prédications spirituelles. Voilà, deux simples extraits.
Allez-y.
On se demande pourquoi Saint Joseph ne dit rien dans l'Évangile. On pourrait au contraire s'interroger sur notre besoin de parler en toutes circonstances. Quelle parole authentique ne naît pas du silence ? Notre monde bruyant et verbeux nous presse de parler, de prendre position, d'affirmer nos solidarités avec l'émotion du moment. Saint Joseph enseigne à pratiquer la charité par la maîtrise de soi, à mettre la parole en pratique. On découvre alors qu'un acte de charité est la plus belle parole d'amour.
Ça, c'est pour le premier extrait.
Et on reste dans des choses très concrètes. Et si vous le permettez, un deuxième extrait qui, je crois, est vraiment d'actualité avec ces lois qui sont en cours actuellement et toutes les interrogations qu'il y a sur la paternité. Voilà ce que dit le Père Dominique sur cela. La véritable paternité commence lorsqu'un homme s'engage envers sa femme pour la vie. Tant il est vrai qu'aucune femme ne peut envisager de projet de maternité sans un mari à ses côtés. La paternité authentique a pour fondement l'amour gratuit d'un homme pour sa femme et pour ses enfants. Un père s'investit avec son épouse dans l'éducation des enfants, y compris dans le développement de la vie spirituelle. Dès lors, Saint Joseph, époux de Marie, fut un père pour Jésus. Y a-t-il lien plus intime que le mariage ? Y a-t-il un service plus grand que la paternité ? Saint Joseph est le plus grand saint, et le saint, pardon, le plus proche de Jésus et de Marie. Saint Joseph, puisse vos vertus inspirer tous les époux et tous les pères. Voilà, et donc ces petites pensées peuvent accompagner chacun de nous de manière très concrète dans cette belle année Saint-Joseph.
Voilà, c'est des pensées aussi, c'est un ouvrage dans lequel on peut justement picorer ces méditations spirituelles. Alors je rappelle les titres donc des quatre ouvrages que vous nous avez proposés. La BD, c'est donc Le Veilleur, une vie de Saint-Joseph, paru aux éditions de l'Emmanuel. Tout savoir sur Saint-Joseph, donc de Dominique Le Tourneau, c'est donc cette fois aux éditions Artege. Et puis les deux livres, on va dire, de témoignages ou de réflexions spirituelles, Merveille de Saint-Joseph aux éditions de l'Emmanuel et pensées spirituelles sur Saint Joseph, paru aux éditions Artege. Merci beaucoup d'avoir répondu un peu au pied levé. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va retrouver le père Pascal Garçon pour parler de ce lieu où on va dire ciel et terre se sont particulièrement rejoints et touchés, Notre-Dame de Garaison, lieu d'apparition mariale en 1515, la Vierge dans notre région. Donc venez, est venue parler à une petite fille anglaise de Sagazan, une manière aussi de nous persuader peut-être des réalités d'en haut.
Présence à Auch 89.6.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les diocèses du Sud-Ouest à l'heure de Saint-Joseph, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mardi matin autour du plateau pour ceux qui nous rejoindraient. Michel Pagès, prêtre du diocèse de Toulouse, curé de la paroisse Saint-Joseph, Pascal Garçon, qui est recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison, et Sylvie Faye pour les éditions d'Emmanuel et Loïc Mérion pour les éditions Artege qui étaient avec nous dans cette deuxième partie. Pascal Garçon, merci d'avoir répondu à notre appel. On aurait pu mettre en valeur de multiples réalité à l'occasion de cette année Saint-Joseph, parce que les initiatives commencent à se multiplier. J'ai vu que vous organisiez donc des mercredis de Saint-Joseph. Avant de parler de ça, je me suis dit l'occasion est trop belle, puisque pour nous persuader des réalités du ciel, rien de mieux que de parler d'un lieu d'apparition. J'aimerais donc qu'on commence par faire un détour pour présenter à nouveau ce lieu, Notre-Dame de Garaison, qui n'est probablement pas encore assez connu dans le Sud-Ouest. 1515, donc, la Vierge Marie apparaît à une jeune fille anglaise de Sagazan. Est-ce que vous pouvez nous re-raconter cette histoire ?
Alors, c'est une histoire simple, hein, qu'on pourrait dire, tiens, ça nous rappelle un autre événement qui arrivera 3 siècles après. Donc, c'est une jeune fille anglaise, Angèle, on dirait aujourd'hui, qui vient à l'endroit qui s'appelle la lande d'Elbock, la lande du bouc, pour y faire paître le troupeau de son papa. Et c'est là qu'elle a 3 apparitions d'une belle dame qui se présente dès la première apparition comme la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui dit qu'elle a choisi ce lieu pour répandre ses dons, et qui demande de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Et elle souhaite la construction d'une chapelle dans ce lieu. Et pour tous ceux qui sont venus ou qui viendront, vous verrez que Garaison, ce n'est pas la croisée de routes importantes, ce n'est pas à la périphérie ou au centre d'une ville, c'est perdu de perdu. Et je crois que quand des gens demandent des preuves, je leur dis souvent, écoutez, s'il ne s'était rien passé dans ce lieu, il n'y aurait rien, il n'y aurait que des champs. Alors quand on voit que le sanctuaire a été construit 20 ans après les apparitions, qu'il y a toute une décoration qui va couvrir le 16e et le 17e siècle, où on a 2 reproductions de Saint Joseph, un avec son lys et avec cette phrase dont le Père Pagès nous rappelait que Saint Joseph a été institué gardien de la maison du Seigneur, et puis un autre retable où on voit Joseph très jeune durant la fuite en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus.
Pascal Garçon, au moment des apparitions, est-ce que c'est comme à Lourdes, c'est-à-dire est-ce qu'Anglaise de Sagazan a eu du mal à persuader les locaux de cette apparition? Donc vous le disiez, la Vierge est apparue, elle est apparue 3 fois. La première donc, fois, elle a donc dit « Je suis la Vierge Marie, Mère de Dieu, mais allez dire à votre père d'avertir le recteur de Montléon qu'il doit bâtir ici une chapelle, car j'ai choisi ce lieu et j'y répandrai mes dons. » Quid de la réponse du recteur de Montléon? On l'imagine très bien,
on l'imagine très bien, parce que quand on vient nous dire quelque chose comme ça, donc il va falloir de nouveau une intervention du ciel pour convaincre d'abord le cœur des gens, pour qu'ils en fassent une expérience. C'est l'expérience concrète dans un pays pauvre comme l'était la région, et dans un temps de disette, c'est de nouveau l'expérience. Il va y avoir à la 3e apparition un certain nombre de paysans qui vont venir sur cette lande, qui ne vont rien voir, mais qui vont entendre. Et qu'est-ce qu'ils entendent ? Marie qui dit à tous, n'oubliez pas de remercier Dieu pour ses bienfaits, et elle s'adresse à la jeune bergère anglaise en lui demandant de sortir le pain qu'elle a dans son tablier, son pain de pique-nique. Et c'était ce qu'on appelait autrefois un pain noir, un pain dur, un pain de très mauvaise farine qu'il fallait tremper dans l'eau, dans le lait ou dans la soupe pour pouvoir le manger. Et quand Anglaise sort son pain, c'est du bon pain frais, du bon pain blanc, on dirait aujourd'hui du pain brioché, et Marie dit à tous ceux qui sont venus, rentrez chez vous. Et quand ces gens rentrent chez eux, qu'ils ouvrent la huche à pain, ils découvrent eux aussi du très bon pain. Et ce qu'on appelle ici le miracle des pains. Et le dimanche suivant, eh bien, tous ces gens qui ont entendu dire Marie, n'oubliez pas de remercier Dieu pour ses bienfaits, vont venir, ça va être la première procession au sanctuaire de guérison, enfin ce qui deviendra le sanctuaire de guérison, pour dire merci avec les pains. Et pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'archéologie liturgique, vous savez bien que le mot Eucharistie vient du grec et qui veut dire merci. Si Marie veut la construction d'une chapelle dans ce lieu, c'est justement pour la célébration de l'Eucharistie, pour pouvoir dire merci avec les mots et la vie du Christ Seigneur.
On pourrait en citer d'autres, hein, des miracles, puisqu'il y en a eu de nombreux. On peut dire aussi donc que ça a été un très important lieu de dévotion. On dit que c'est presque, on va dire, c'était Lourdes avant l'heure. On y reviendra peut-être. Alors vous proposez donc des mercredis de Saint-Joseph. Expliquez-nous ce que sont ces mercredis de carême et ce que vous y proposez.
Voilà, donc c'est tout simple comme beaucoup le font, et puis donc c'est tous les mercredis, puisque c'est mercredi, c'est le jour de Saint-Joseph, une petite conférence sur un des aspects de Saint-Joseph à partir des Écritures et à partir de la foi de l'Église. Vous avez parlé de la lettre du pape François, il y a aussi ce beau texte de Jean-Paul II sur Saint-Joseph, et puis il y a aussi ce qui est dit dans les Écritures sur Saint-Joseph, dans l'évangile de Matthieu, et dans l'évangile de Luc, bien évidemment. Et puis aussi ce que dit Jésus du Père, parce que ce n'est pas rien que Jésus dit à la fois de ne donner sur terre le nom de Père à personne, et en même temps, c'est ce mot qu'il va utiliser pour Joseph. Hein. Et quand Marie, au temple, quand Jésus a 12 ans, se présente, elle lui dit bien « Ton Père et moi » avons cherché. Et je crois que Joseph, là, il y a un plan central. Je crois que nous, chrétiens, catholiques, il faut qu'on puisse le comprendre dans notre dévotion à Saint-Joseph, que Joseph a cette part, vraiment, cette présence, cette place du Père, le Père Pagès redisait le Père dans l'ombre, hein, et ben oui, mais il est Père, profondément Père. Et dans l'aide du Pape François, Pape François insiste beaucoup pour retrouver cette paternité pour les prêtres, pour les évêques et pour tous ceux qui ont une charge dans l'Église.
Alors je vois le Père Michel Pagès opiner du chef, donc Michel Pagès, c'est important, c'est, comment dire, Saint-Joseph était pleinement Père. Et il peut, on va dire, ça peut être l'occasion de découvrir une forme de paternité qu'on ne connaît pas, en fait, pour les chrétiens.
Merci au Père d'évoquer, évidemment, cette dimension, elle est majeure. Il l'a évoqué par quelques traits bibliques, évident, mais je voudrais souligner que dans les initiatives qui sont nées depuis plusieurs générations de curés là, sur la paroisse Saint-Joseph, sont nées deux autres initiatives au passage rapide, mais qui mettent en valeur les pères des familles. Notamment, une des origines sur Toulouse du pèlerinage des pères à Cotignac, et donc cette tradition continue, elle est élargie, elle a plusieurs sources aujourd'hui, mais elle continue d'être très vivante et les prêtres la soutiennent. Et puis une autre initiative qui est dans cette dimension de paternité qui est majeure, c'est est née à Saint-Joseph, à la paroisse Saint-Joseph, ce groupe qui un peu en raison de Covid a été un peu mis entre parenthèses, mais une fois par mois, une soirée avec, c'est-à-dire apéro, adoration et topo, à la manière un peu très masculine des choses, mais de permettre à des pères et jeunes grands-pères de se retrouver, d'échanger autour d'un verre, d'avoir une nourriture sur laquelle ils pouvaient échanger et où nous apportions notre concours aux différents prêtres, et puis un temps d'adoration. Parce qu'ils mesuraient combien...
Ma question était, est-ce que ça peut être l'occasion cette année de découvrir en fait une forme de père qu'on n'attendrait pas, parce qu'à la limite, Dieu le Père, ça on peut être introduit à cette réalité spirituelle, mais trouver en Saint-Joseph un père, ça c'est quelque chose qui peut nous parler ?
Un modèle, une figure de prêtre, de père, qui, comme cela vient d'être dit, est un appel permanent aux évêques et aux prêtres se montrer dans leur vocation spécifique au service du peuple de Dieu, dans cette dimension-là, qui doit être première par rapport à quelque autre autorité. Mais il y a une paternité qui est extrêmement profonde et juste, ajustée. Mais évidemment que ça éclaire la dimension aujourd'hui qui est drôlement ballottée, la vocation des pères dans la société, dans la famille, dans les visages ballottés eux aussi de la famille. Je pense que ce qu'on aborde là est à plusieurs visages, mais c'est la même réalité. Dieu est l'unique père, mais il nous renvoie, comme je l'évoquais au début, à cette forme d'intendance, il nous confie. Et chacun doit percevoir que dans sa vocation, cette dimension d'être à côté, d'être épaule, d'être éducateur, mettre en valeur l'autre, de lui permettre à lui de grandir et pas nous d'abord. Vous voyez, on touche là du doigt la réalité du prêtre père, de l'évêque père, du père de famille, et voilà, toutes ces dimensions.
Pascal Garçon, peut-être pour finir, comme pour le Père Michel Pagès, vous avez certainement donc parcouru cette lettre apostolique avec un cœur de père, donc que le Pape François nous donne à tous en lecture. Il faut rappeler que c'est un texte court, hein, et très accessible. Dans cette lecture, quels sont, on veut dire, ou les points qui vous ont marqué ?
Ah ben c'est cette paternité, parce que ça nous renvoie profondément à l'incarnation pour le Christ, hein. Il est né dans une famille, au sanctuaire de guérison, on a toutes ces statues de Saint-Anne, Saint-Joseph, Saint-Joseph, de rentrer vraiment dans l'incarnation. Si Saint-Thérèse d'Avila demandait que tous les chrétiens qui voulaient prendre le chemin de l'oraison, de prendre Saint-Joseph pour père, c'est justement pour être ancré dans l'incarnation. Et pour nous les hommes, je crois que le pape François nous invite, et nous prêtres, nous invite vraiment à cette vie du cœur, cette vie selon le cœur et cette paternité. Je crois que là, nous sommes très, très attendus par le peuple chrétien.
Eh bien, merci à tous d'avoir répondu à l'appel et de multiples autres initiatives à trouver. Pour les trouver, eh bien, vous baladez sur le site internet de Radio Présence, radioprésence.com, ou sur les sites des diocèses. On pourrait dire qu'à la paroisse Saint-Joseph, donc rendez-vous est donné le 20 mars à 11h pour cette messe solennelle à l'occasion de la fête de Saint-Joseph, qui sera présidée par Mgr Robert Le Gall, où seront bénis donc ces milliers de médailles, que tout au long de l'année, on peut se rendre dans l'église de 8h à 19h, déposer une intention de prière à l'hôtel qui est dédié à Saint-Joseph, ou alors venir toquer à la porte à l'occasion des permanences les mercredis, jeudi, vendredi matin pour recevoir ces médailles bénies. Et puis les rendez-vous donc à Notre-Dame de Garaison, c'est donc chaque mercredi de carême à 15h en direct sur Facebook aussi, Notre-Dame de Garaison. Vous tapez Notre-Dame de Garaison sur Facebook et vous trouverez les rendez-vous du Père Pascal Garçon pour ces mercredis de Saint-Joseph. Et les livres, et ben les livres, je les mettrai à la fin de, je les mettrai sur la publication podcast de l'émission. Allez, si Pensée spirituelle sur Saint-Joseph de Dominique Joseph et Tout savoir sur Saint-Joseph de Dominique Le Tourneau, c'est aux éditions Artege. Et pour les éditions de l'Emmanuel, Le Veilleur, une vie de Saint-Joseph et Merveille de Saint-Joseph. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.